Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Éric Dupri.
Bienvenue sur Radio Présence à l'écoute de Vivante Église. Merci de votre fidélité à cette émission. Le 25 mai, le pape Léon XIV a publié la première encyclique de son pontificat. Elle a pour titre Magnifica Humanitas, Magnifique Humanité ou La Grandeur de l'Humanité. Ce texte de 245 paragraphes a pour objet la protection de la personne humaine à l'ère de l'intelligence artificielle. On en parle avec mon invité, le frère Guillaume Marais-Grange, membre de la communauté des Dominicains de Toulouse. Bienvenue frère Guillaume Marie, merci d'avoir accepté de venir parler de cette encyclique à Vivante Église. Il est vrai que l'intelligence artificielle est un sujet qui vous passionne. Vous lui avez d'ailleurs consacré une série de conférences au couvent des Dominicains l'année dernière.
Bonjour, oui, tout à fait. Nous avons voulu considérer ce sujet qui était d'actualité, qui est toujours d'actualité, et le pape Léon a remis au goût du jour d'une certaine manière en publiant cette encyclique très riche.
Alors je vais préciser pour nos auditeurs que vous êtes polytechnicien, autrement dit le monde de la technique ça vous connaît. La première encyclique d'un pape nouvellement élu est toujours très attendue. Est-ce que vous avez été étonné que Léon XIV ait choisi pour son premier texte le thème de la protection de la personne humaine à l'ère de l'intelligence artificielle ?
Non, parce qu'il l'avait beaucoup annoncé, on attendait cette encyclique et c'est aussi très cohérent avec son nom, Léon XIV, et il a lui-même dit qu'il s'inscrivait dans la lignée de Léon XIII, qui a publié la première grande encyclique qui fait partie de la doctrine sociale de l'Église.
Elle est à l'origine presque, hein. En tout cas certains considèrent qu'elle est à l'origine de la doctrine sociale de l'Église. Rerum Novarum pour rappeler son titre.
L'expression doctrine sociale de l'Église est plus tardive, mais c'est considéré comme le premier grand texte de cet enseignement de l'Église.
Est-ce qu'il n'y avait pas aussi une certaine urgence à ce que l'Église, à travers son chef, Léon XIV, donc, prenne position sur ce sujet de l'intelligence artificielle, sur son développement et ses conséquences pour la personne humaine ?
Oui, il y avait une certaine urgence parce que le sujet est très actuel. En même temps, il faut aussi préciser que ce n'est pas la première fois qu'un pape en parle. Le pape François a déjà parlé souvent de l'intelligence artificielle. Le pape Léon lui-même en a parlé à de nombreuses reprises. Il y a déjà eu au moins deux documents sur le sujet, donc Antiqua et Nova en janvier 2025, et puis un document de la Commission théologique internationale, Quo Vadis Humanitas, Où vas-tu Humanité, qui porte sur le transhumanisme et le post-humanisme, et donc la question de l'intelligence artificielle est au cœur de ces textes déjà. Mais c'est vrai qu'avec cette encyclique, on franchit un pas supplémentaire où cette réflexion sur l'intelligence artificielle est intégrée dans la doctrine sociale de l'Église avec toute la richesse de cet enseignement de doctrine sociale qui est appliqué à l'IA.
Oui, alors à l'époque de la parution de Rerum Novarum, donc cette encyclique du pape Léon XIII, à laquelle vous faisiez référence il y a quelques instants, c'était en 1891, il y a 135 ans. Et là, c'était la révolution industrielle et la condition ouvrière qui inquiétaient le pape à l'époque. Est-ce qu'en publiant Magnifica Humanitas, Léon XIV fait un peu la même chose en se positionnant face à la révolution numérique cette fois-ci ?
Oui, tout à fait. Et lui-même le dit bien au début de l'encyclique. Hein. Le début de l'encyclique, c'est les res novae, les choses nouvelles. Et ça fait clairement allusion à l'encyclique Rerum Novarum. Je crois que dans l'encyclique Rerum Novarum, en français, on traduit par les innovations de notre époque, donc à la fin du 19e siècle. Bah, les innovations d'aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle et plus largement le monde numérique, la robotisation, qui sont intégrés aussi à cette réflexion.
Oui, parce que la question qui était celle de l'encyclique du pape Léon XIII et celle de l'encyclique du pape Léon XIV, 135 ans après, c'est comment protéger la personne humaine face à des bouleversements techniques très rapides dont on ne prend souvent pas le temps de mesurer toutes les conséquences pour l'homme.
Oui, je crois qu'un des centres de l'encyclique, c'est la dignité de la personne humaine. Le titre est tiré des premiers mots, hein, Magnifica Humanitas. On voit bien quel est l'axe de l'encyclique. C'est cette dignité de l'homme créé à l'image de Dieu, qu'il faut préserver, qu'il faut construire, qu'il faut favoriser à l'ère de l'intelligence artificielle. Je suis frappé qu'il y a quelques jours, j'ai remis le nez dans le compendium de doctrine sociale de l'Église, qui fait un peu le point sur tous les grands textes de la doctrine sociale de l'Église. Et il n'y a pas vraiment de chapitre sur le monde numérique. C'était pas un sujet qui était traité dans la doctrine sociale de l'Église, parce qu'on n'en ressentait pas le besoin. Avec cette encyclique, ça arrive dans la doctrine sociale de l'Église, et je crois que c'est une très bonne chose et très instructive pour nous.
Oui, alors le titre, hein, Magnifique Humanité, Magnifica Humanitas, interroge hein, dès le départ. Et en fait, la première phrase de l'introduction bah, donne une indication, comme vous le disiez. La magnifique humanité créée par Dieu se trouve aujourd'hui face à un choix décisif, ériger une nouvelle tour de Babel ou bâtir la cité où Dieu et l'humanité habitent ensemble. Alors, je rappelle que Robert Prévost, devenu Léon XIV, est un augustinien, un augustin, grand admirateur et grand lecteur de saint Augustin. Et là, il me semble qu'il y a, dès le début, une référence très claire à la cité de Dieu de saint Augustin.
Oui, exactement. Et il y fait référence explicitement dans la suite de l'encyclique. Donc, il n'y a pas de doute. C'est vraiment le fil rouge de l'encyclique, hein, l'opposition entre la tour de Babel, où l'humanité cherche à se construire sans Dieu, à adopter une uniformité, et de l'autre côté, la reconstruction de Jérusalem, donc on trouve dans le livre de Néhémie, où chacun apporte sa part à l'édification de la cité. Donc c'est une cité qui est construite avec Dieu, où chacun...
À sa place,
et à sa place, voilà, et où il n'y a pas une uniformisation, mais une diversité qui est une richesse.
Je voudrais aussi qu'on évacue rapidement une question que peuvent se poser, que se sont posées ceux qui n'ont pas lu encore Magnifica Humanitas, ou qui ne l'iront peut-être pas. Est-ce qu'on peut dire que le texte de cette encyclique est technophobe, ou tout du moins que son auteur se méfie beaucoup, par principe, d'un monde qui serait de plus en plus asservi à la technique et à ses progrès?
Non, ce n'est pas une encyclique technophobe, et le pape Léon le souligne à de nombreuses reprises dans l'encyclique. Les principes qu'il propose veulent échapper à la dichotomie entre le oui à la technique et le non à la technique. Donc il s'agit ni de technophilie ni de technophobie, mais il s'agit de donner des critères pour faire grandir l'humanité. Sachant que la technique est là, comment est-ce qu'on l'empêche de dominer l'humain? Comment est-ce qu'on favorise la dignité de la personne humaine devant la technologie?
Oui, moi, j'ai beaucoup pensé, en découvrant ce texte, son titre et son sujet, un essai de Georges Bernanos, publié en 1947, un an avant sa mort, qui avait pour titre « La France contre les robots ». Et là aussi, il mettait en garde, il se défiait hein, même de la mécanisation du machinisme hein, des sociétés humaines et de ce que ça impliquait aussi pour l'homme. C'est-à-dire qu'il allait perdre d'une certaine manière un peu de sa liberté à penser par lui-même, qu'il allait être inhibé, complètement inhibé par la machine. Est-ce qu'il y a aussi quelque chose de cet ordre dans cette encyclique?
Au XXe siècle, il y a eu beaucoup de penseurs qui ont réfléchi à la technique. Hein. Il y a eu tout un courant de philosophie de la technique, assez critique d'ailleurs, envers la technique, parce que bah, ça amoindrissait les capacités spirituelles de l'homme. Le pape ne fait pas référence à ce courant explicitement dans l'encyclique. Pourtant, il y a vraiment une réflexion sur la manière dont la technique nous façonne. Par exemple, les paragraphes qui exhortent à une hygiène de l'attention, à jeûner d'intelligence artificielle. Le pape n'est pas du tout naïf devant les transformations que la technique engendre dans notre humanité. C'est présent en particulier dans le chapitre 4, hein, « Préserver l'humain dans la transformation ». L'existence de l'intelligence artificielle transforme notre vie quotidienne. Bah, comment faisons-nous pour rester humain et surtout pour grandir en humanité avec Dieu aujourd'hui?
Vous avez parlé d'un des chapitres, alors je pense qu'on peut parler maintenant de la structure de cette encyclique. Comment ce texte se présente-t-il? Quelles en sont les grandes lignes, les principaux sujets abordés? La structure, c'est une introduction, 5 grands chapitres et une conclusion.
Voilà, donc l'introduction présente le fil rouge que vous avez décrit tout à l'heure, hein, Tour de Babel, reconstruction de Jérusalem. Ensuite, je dirais qu'il y a ces 5 chapitres, on peut les articuler en 2 parties. La première partie, c'est vraiment une partie de doctrine sociale de l'Église, donc les 2 premiers chapitres, où le pape fait d'abord un historique de la doctrine sociale de l'Église, donc de Rerum Novarum de Léon XIII jusqu'à Fratelli Tutti du pape François, tous les grands textes de doctrine sociale. Et ensuite, il rappelle les fondements et les principes de la doctrine sociale. Donc, 3 fondements, l'homme est créé à l'image de Dieu, la dignité de la personne humaine, les droits de l'homme. Et ensuite, 5 principes, le bien commun, la destination universelle des biens, subsidiarité, solidarité et justice sociale. Donc, cette première partie, ce sont en quelque sorte des rappels, mais qui vont ensuite nourrir la réflexion dans les 3 chapitres suivants, donc qui portent plus spécifiquement sur l'intelligence artificielle. Donc d'abord le chapitre 3, la grandeur de la personne humaine face aux promesses de l'IA, qui décrit un peu ce qu'est l'intelligence artificielle, et aussi des philosophies de fond qu'on évoquait tout à l'heure, transhumanisme et post-humanisme, qui gouverne d'une certaine manière des peurs ou des fantasmes à propos de l'intelligence artificielle. Et ensuite, donc, le chapitre 4 qu'on évoquait à l'instant, préserver l'humain dans la transformation, comment est-ce que l'IA transforme notre société et quels principes adopter, comment grandir en humanité aujourd'hui. Et enfin, un dernier chapitre, chapitre 5, la culture du pouvoir et la civilisation de l'amour, qui porte assez longuement sur le rôle de l'intelligence artificielle dans la géopolitique, dans les conflits mondiaux. C'est là qu'il y a la fameuse expression du désarmement
de l'IA.
Ça a été une grande inquiétude, et c'est toujours une grande inquiétude des papes, hein, les systèmes d'armes autonomes, le rôle de l'intelligence artificielle dans la guerre.
On parle de robots tueurs maintenant. Hein.
Exactement. La responsabilité morale de ces agents autonomes.
Les questions d'éthique de manière générale.
Hein. Voilà. Et donc, face à cela, le pape Léon propose de bâtir, selon l'expression de Paul VI, une civilisation de l'amour qui consiste à travailler pour la justice tous ensemble dans le monde.
Si on résumait le livre avant de rentrer dans le détail, parce qu'on va bien sûr le faire, dès l'introduction, donc Léon XIV décrit une alternative finalement, la tour de Babel ou la reconstruction de Jérusalem. Alors moi, quand on parle de tour de Babel, l'image qui me vient, c'est l'orgueil mortifère de l'homme qui se prend pour Dieu et qui le mène presque tout le temps à la catastrophe.
Oui, tout à fait.
On peut le voir comme ça. Et en revanche, la reconstruction de Jérusalem, c'est ce que vous disiez aussi en début d'émission, c'est le travail patient, la réflexion collective et le progrès au service du bien commun de l'humanité, de tous les hommes.
Oui, et je crois que derrière cette construction de la tour de Babel, on peut voir le désir constant d'optimisation, d'efficacité qui nie l'humain. Le pape propose, dans l'introduction, quatre piliers pour construire selon le bien. Donc il y a la relation avec Dieu, il y a l'acceptation des limites humaines. C'est un des
points
forts.
Ça, je pense que c'est un sujet très important. Voilà. Et ce mot limite me paraît fondamental. Il faut l'avoir tout le temps à l'esprit, je pense. Ouais.
Et les deux autres, donc c'est responsabilité partagée et langage évangélique. Il parle aussi de désarmer les mots dans l'encyclique un peu plus loin.
Alors, qu'est-ce que ça voudrait dire, ça, désarmer les mots? Lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, désarmer l'IA, on comprend, mais désarmer les mots.
Ça correspond à l'idée qui est présente à plusieurs endroits, qu'on pourrait être un peu désemparé devant cette vague technologique sur laquelle on a peu de prise.
Oui, on subit.
Voilà, qu'on subit.
Enfin, la plupart d'entre nous, nous subissons.
Et le pape donne un message d'espérance en disant, mais finalement, nous pouvons chacun prendre notre part de cette construction de l'humanité. Alors nous ne sommes pas forcément des enjeux de la tech, nous ne sommes pas à l'origine des modèles d'intelligence artificielle, mais chacun nous pouvons prendre notre part, et cela tout simplement en bâtissant la justice et la paix autour de nous. Et donc il insiste sur le langage, ou sur le désarmement des mots, parce que c'est un des moyens de construire ce monde de justice et de paix en vivant des relations paisibles avec le monde qui nous entoure. L'IA a une certaine capacité de déshumanisation. Eh bien, comment est-ce qu'on réhumanisons notre monde? Eh bien, simplement en parlant, en ayant des vraies relations humaines avec ceux qui nous entourent.
Le cœur de l'encyclique, est-ce qu'on peut dire, pour là aussi un petit peu résumer peut-être à gros traits, mais tout de même, c'est la question anthropologique. C'est-à-dire, quelle place pour l'homme dans un monde où l'intelligence artificielle va s'infiltrer partout, dans tous les domaines, dans notre quotidien, même le plus intime.
Oui, tout à fait. Donc la question anthropologique est au centre. Je préciserais peut-être que cette question anthropologique, elle n'est pas du tout déconnectée de la question théologique. C'est-à-dire, c'est l'humain relié à Dieu. Le problème de la tour de Babel, c'est que l'homme cherche à se construire sans Dieu. Au contraire, la reconstruction de Jérusalem met le temple au centre de la ville. Et donc, cette question anthropologique, Dieu a toute sa place. Et le pape Léon parle souvent de la relation avec Dieu dans la prière, qui est aussi un des moyens de construire la dignité de la personne humaine.
La conclusion du livre, on ne l'a pas abordée. Là, on a parlé des cinq chapitres, on a parlé de l'introduction, donc avec cette métaphore qui va filer tout le long du livre entre la tour de Babel et la reconstruction de Jérusalem. Il parle de... Le verbe s'est fait chair, donc il fait allusion au prologue de l'évangile selon saint Jean. Pourquoi il a tenu à terminer là-dessus, même s'il parle du Magnificat aussi à la fin? Et le début de sa conclusion, c'est le verbe s'est fait chair.
Oui, parce que dans le christianisme, l'incarnation est centrale. Et à l'ère de l'intelligence artificielle, il y a un risque de désincarnation. Ces limites de l'humanité, le Christ les a prises sur lui. Donc il nous montre le chemin, en quelque sorte, pour dépasser ces limites, non pas en les niant, non pas en cherchant à les supprimer, mais avec la grâce de Dieu, nous pouvons transcender l'humain, mais transcender l'humain, c'est pas la transcendance du transhumanisme, mais c'est la divinisation, la grâce que Dieu nous donne et qui nous élève à lui.
Et là, c'est sur le plan spirituel que l'on parle de
transcendance. Oui.
Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, j'écoutais encore il y a quelques jours une émission où intervenait le dénommé Laurent Alexandre, que vous devez connaître au moins de nom, qui a écrit un livre à un titre un peu surprenant, on voit un peu à quoi il fait allusion, c'est « Vivre 1000 ans ». Le titre n'est pas anodin, je pense. Il y a certaines personnes comme ça qui nous disent qu'avec l'intelligence artificielle, justement, il n'y a plus de limite. Il n'y aura plus de limite. Qu'est-ce qu'on peut répondre à un discours comme celui-ci, après avoir lu l'encyclique du pape ?
Oui, alors disons cette philosophie de fond qu'est le transhumanisme, je crois que c'est une des grandes difficultés de ce qu'on entend à propos de l'intelligence artificielle dans la société, avec ses promesses de transcender les limites, parfois même de fusionner avec la machine. Les textes pontificaux insistent beaucoup pour contredire ces visions, qui sont des philosophies, qui ne sont pas d'abord appuyées sur des faits, même si elles se servent des découvertes actuelles. Il y a un paragraphe là-dessus dans l'encyclique et le pape souligne que le vrai dépassement de l'humain, c'est celui que propose le christianisme. D'ailleurs, transhumanare, c'est une expression qui vient de Dante à l'origine dans la Divine Comédie, mais qui évoque la divinisation par la grâce. Donc le christianisme a toutes les clés pour répondre à ce mythe du transhumanisme qui en plus est une sorte de mythe qui vient du christianisme, un mythe un peu sécularisé, une sécularisation du christianisme où finalement la vie éternelle n'est pas pour l'au-delà mais elle est pour maintenant grâce à la technologie. Le christianisme explique que la vie éternelle est pour après la mort grâce au Christ et non pas grâce à la technologie.
Le royaume n'est pas de ce monde.
Voilà, exactement.
Je pense que nous avons bien posé les choses et donné une bonne idée générale du contenu de l'encyclique Magnifica Humanitas et des questions qui y sont abordées. Après la pause musicale, nous allons rentrer un peu plus dans le détail du texte publié par Lyon 14. En attendant, nous écoutons la musique à grande vitesse de Michael Nyman, une œuvre qui avait été commandée au compositeur britannique par le Festival de Lille en 1993 pour l'inauguration de la ligne TGV par Lille. Je pense qu'elle illustre bien la rapidité à laquelle les choses sont en train de changer dans notre monde.
Thank you. Présence.
Vivante Église, Éric Dupri.
Nous sommes de retour à l'antenne pour la seconde partie de ce Vivante Église consacré à Magnifica Humanitas, première encyclique du pape Léon XIV, publiée le 25 mai. Je suis toujours en compagnie du frère Guillaume Marie-Grange, membre de la communauté des Dominicains de Toulouse. Tout à l'heure, nous avons présenté la structure de ce texte, ses grandes lignes et les principales questions qu'il aborde. Je voudrais maintenant qu'on entre un peu dans le détail, comme je l'ai dit avant la pause musicale, de chacun de ces cinq chapitres. Le premier a donc pour titre « Une pensée dynamique fidèle à l'Évangile ». Quelles sont les idées fortes que le pape Léon XIV y développe ?
Alors, ce premier chapitre, il faut le prendre, je pense, avec le second. Hein. Ce premier chapitre évoque ce qu'est la doctrine sociale de l'Église, parce que beaucoup des textes magistériels de l'Église concernent le dogme, par exemple la proclamation de l'Assomption. La doctrine sociale, c'est une pensée qui tire ses principes de l'Évangile, mais qui s'applique aux problèmes de notre époque. Donc Rerum Novarum, la première grande encyclique de doctrine sociale, évoquait les questions liées à la révolution industrielle, les questions sociales. L'encyclique du pape François Laudato Si traite des questions d'écologie, qui sont toujours très actuelles. Donc le pape Léon, dans ce chapitre, fait un grand historique de la doctrine sociale, les textes principaux, leurs thèmes majeurs, donc c'est très pédagogique. C'est une petite synthèse, pour ceux qui connaissent moins ces textes, de ce dont ils ont traité et comment cette nouvelle encyclique vient s'insérer dans cette dynamique.
Oui, alors il y a plusieurs sous-thèmes, effectivement, dans ce premier chapitre, une pensée dynamique fidèle à l'Évangile. Et le premier, c'est une église en chemin dans l'histoire de l'humanité. Et le dernier, c'est une lecture de l'histoire à la lumière de la foi. L'histoire doit être lue à la lumière de la foi.
Oui, disons, la doctrine sociale, c'est une pensée un peu de l'actualité. Donc de l'actualité historique. On parle aujourd'hui de l'intelligence artificielle, dans 100 ans ce sera peut-être un sujet complètement dépassé. Si on lit Rerum Novarum aujourd'hui, alors il y a toujours des grands principes qui sont valables, mais il faut les adapter à 2026. Donc c'est une pensée qui est constamment en mouvement et qui est constamment à actualiser, c'est ce que le pape a souhaité
faire. Et adapter aussi au bouleversement que l'histoire nous impose,
oui.
Qu'on le veuille ou non.
Oui, oui, exactement.
Donc le deuxième chapitre, et vous le reliez au premier, hein, c'est « Fondements et principes de la doctrine sociale de l'Église ». Donc là, ce sont vraiment en fait des rappels, essentiellement.
Oui, alors...
Peut-être actualiser aussi, là encore, à l'actualité que nous vivons.
Oui, tout à fait. Donc, trois fondements, cinq principes. Donc ça, c'est vraiment le bien commun de la doctrine sociale de l'Église. Il n'y a rien de nouveau. Après, le fait que le pape les présente de cette manière un peu pédagogique, c'est aussi très utile et c'est aussi un acte magistériel, hein, montrer que c'est vraiment l'enseignement constant de l'Église. Quand le pape souligne ces principes, effectivement, à chaque fois, il les applique assez brièvement à l'intelligence artificielle, au monde numérique, en montrant en quoi ce principe se pose d'une manière nouvelle, enfin, ou doit être appliqué plutôt d'une manière nouvelle dans le contexte actuel.
Oui, alors là, il y a aussi une bonne dizaine, même une douzaine de sous-thèmes. Par exemple, il y a l'être humain, image du Dieu trinitaire.
Tout
Pourquoi
à fait.
Qui fait ce rappel, d'ailleurs ?
Alors ça, donc, c'est le premier fondement de la doctrine sociale, le fait que l'homme est créé à l'image de Dieu. Et donc ça permet aussi, on parlait tout à l'heure de la technophilie ou technophobie, ça permet au pape de replacer la question de la technique dans cette création de l'homme, puisque l'homme a été créé avec une intelligence, avec une liberté, avec une certaine autonomie, avec la capacité d'aimer. Et donc la technique et la science, c'est une application de cette intelligence et de cette liberté humaine. Donc le pape voit la technique de manière principalement positive. Ça nous permet d'améliorer nos conditions de vie. Donc, il ne faut pas avoir un regard d'emblée négatif sur la technique. En revanche, les questions se posent quand la technique entre en contradiction avec la dignité de la personne humaine, qui est le deuxième fondement de la doctrine sociale de l'Église.
Oui, d'ailleurs, il y a un petit sous-chapitre qui a pour titre « L'égale dignité de tous les êtres humains ». Et ça, c'est une des questions que pose l'intelligence artificielle. Est-ce que ça ne va pas créer encore plus d'inégalités qu'il en existe aujourd'hui ?
Voilà, tout à fait. Alors ça, il pose la question plutôt dans les principes. Donc par exemple, dans le principe de justice sociale, est-ce que l'intelligence artificielle ne va pas avoir comme conséquence que certains y ont accès, que d'autres n'y ont pas accès, et donc briser une certaine égalité, une certaine justice ?
Oui, un des derniers sous-chapitres du deuxième chapitre, c'est le développement humain intégral. Je me rappelle, et ça vous le savez mieux que moi, qu'il y avait un livre de Jacques Maritain qui avait pour titre « Humanisme intégral », Jacques Maritain qui a fini sa vie au couvent des Dominicains de Rangueil. En quoi l'intelligence artificielle serait un frein ou viendrait perturber le développement humain intégral ?
C'est toujours cette idée hein, que l'intelligence artificielle peut menacer la dignité humaine. Donc là, le pape Léon fait référence à cette notion de développement intégral hein, qu'il réfère à Paul VI, alors qu'il a peut-être été influencé par Jacques Maritain.
Ah oui, ça, on le sait qu'ils avaient des relations
voilà,
très proches.
Ce qu'il appelle développement humain intégral, c'est, disons, dans tous les aspects de la vie humaine, donc économique, social, spirituel et environnemental, donc il fait référence à l'écologie à plusieurs endroits de l'encyclique, hein, par exemple en pointant le coût écologique de l'intelligence artificielle et en appelant à, disons, à des solutions plus durables et donc à une recherche aussi scientifique qui aille dans cette direction-là.
Le troisième chapitre, alors là, il a pour titre « Technique et maîtrise, la grandeur de la personne humaine » face aux promesses de l'IA. Alors vous qui vous intéressez beaucoup à l'intelligence artificielle depuis plusieurs années, est-ce que vous avez trouvé que le pape Léon XIV montre une bonne connaissance de ce qu'est l'IA aujourd'hui et de ce qu'elle pourra être demain ?
Oui, je trouve qu'il y a une bonne connaissance, mais le pape ne souhaite pas, et il a raison, rentrer dans les détails du fonctionnement de l'intelligence artificielle. Il ne définit pas véritablement l'intelligence artificielle en expliquant qu'il y a déjà beaucoup de bibliographies sur ce sujet, et c'est tout à fait vrai. Et en disant aussi, le risque, quand on parle de l'intelligence artificielle, c'est que ce qu'on dise aujourd'hui soit déjà dépassé demain. Donc il est très prudent, et à juste titre. Il ne rentre pas beaucoup dans les détails du fonctionnement de l'intelligence artificielle. Pour une autre raison, je pense, c'est que le Vatican a déjà publié un texte, disons, qui prend à bras-le-corps cette question technique. Donc, c'est le document Antiqua et Nova de janvier 2025, donc Dicaster pour la doctrine de la foi et Dicaster pour la culture. Et là, on a une caractérisation beaucoup plus précise de l'intelligence artificielle. Là, ce n'était pas le but du texte. Le but de l'encyclique, c'est vraiment de donner des principes à l'ère de l'intelligence artificielle pour promouvoir la dignité de la personne humaine. Et le pape se restreint vraiment à cet objectif.
Il y a un des sous-chapitres qui a pour titre, et vous avez abordé ce sujet en première partie d'émission, « Une aide précieuse qui requiert de l'attention ».
Oui.
Aide est un mot important, attention l'est tout autant là.
Oui. Le pape souligne beaucoup le risque du monde numérique dans son ensemble pour notre attention. Il parle d'une hygiène de l'attention. C'est une belle image, hein. L'hygiène, c'est quoi ? C'est je prends du temps pour le soin de mon corps. Et bien là, il s'agit de prendre du temps pour le soin de son esprit. Et ça implique de savoir quand ne pas utiliser l'intelligence artificielle. Ça implique de jeûner d'intelligence artificielle. Il y a une très belle citation de Platon, alors qu'il n'est peut-être pas dans ce chapitre, mais dans le suivant, où Platon explique que la réflexion demande du temps, demande du silence, et à l'ère de l'intelligence artificielle, c'est encore plus nécessaire. Savoir comment réfléchir par soi-même, ne pas toujours déléguer cette tâche à une machine, sinon il y a un risque d'appauvrissement de l'humanité.
Il faut faire montre là de discernement finalement.
Voilà,
de discerner.
Ouais. De discernement, et pour ça, il faut promouvoir une éducation à l'intelligence artificielle, comment l'utiliser vertueusement.
Et ce chapitre se termine par un sous-chapitre qui a pour titre « Deux cités et deux amours ». De quoi il parle, là ?
Alors là, c'est la référence à saint Augustin, que le pape aime beaucoup, puisqu'il est augustinien. Donc, la cité de Dieu, celle qui met Dieu au centre, et la cité terrestre, celle qui met l'homme au centre, au détriment de Dieu. Et donc, c'est dans la ligne hein, de cette alternative qu'on évoquait tout à l'heure, hein, entre la tour de Babel et la reconstruction de Jérusalem par Néhémie.
On en arrive au quatrième chapitre qui a pour titre « Préserver l'humain dans la transformation ». Et là, il est question de vérité, de travail et de liberté. Et en voyant ces mots, je me suis dit « mais c'est presque un programme politique ».
Oui, la grande idée du pape, hein, c'est qu'on a des nouveaux outils. Et quand on a des nouveaux outils, eh bien, les gestes quotidiens vont changer et les relations sociales vont changer. Et donc, il aborde cela en trois grands domaines. Et je pense que l'ordre est important. D'abord, la vérité. En soulignant que la vérité, c'est un élément essentiel de la démocratie. Pouvoir réfléchir ensemble, avoir accès au vrai, La vérité est un bien commun, hein, dit-il. Et donc, c'est là qu'il évoque cette hygiène de l'attention, cette éducation à l'intelligence artificielle. Hein. On a tous en tête les fake news, tout ce qu'on peut construire aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, d'images fausses, etc. Ou même d'optimisation, de l'opposition, de l'erreur. Donc là, il y a un vrai danger avec l'intelligence artificielle qui demande une vraie attention, une vraie régulation.
Il parle même d'une écologie de la communication. Qu'est-ce que ça peut être une écologie de la communication ?
Disons, c'est l'idée que l'idée de l'écologie, hein, c'est qu'il y a un équilibre dans dans l'univers.
Aussi, sans doute, à avoir en toute chose, y compris dans la communication, peut-être.
Voilà, exactement. Une certaine attention à la vérité, une certaine attention à la juste place de chaque chose. Par exemple, présenter comme essentielles les choses essentielles et pas présenter comme essentielles les faits divers. C'est un impératif de franchise, de vérité.
C'est après qu'il aborde l'aspect éducatif, hein, de cette encyclique. Donc il parle d'une alliance éducative pour l'ère numérique et il parle du rôle central de l'école. Il insiste beaucoup là-dessus.
Ouais. Et il y revient dans la conclusion aussi, en disant, il y a quatre grands points dans la conclusion, et un de ces grands points, c'est « soyons attentifs à l'éducation ». L'éducation en faveur de la vérité, pour faire un bon usage de l'intelligence artificielle, mais aussi parce que cette éducation est encore plus nécessaire à l'ère de l'intelligence artificielle.
Alors quelque chose qu'il aborde là aussi sous plusieurs sous-chapitres, c'est le travail, la valeur du travail, la dignité du travail dans la transition numérique, le problème du chômage. C'est pour ça que je parlais de programme politique presque. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit là-dessus ?
Alors l'une des grandes questions, il me semble, hein, c'est est-ce que c'est la machine qui s'adapte à l'homme, ou est-ce que c'est l'homme qui s'adapte à la machine ? Qui est l'outil de quoi ? Si c'est la machine qui s'adapte à l'homme, eh bien la machine est un outil et ça favorise le travail, la dignité humaine. Si au contraire c'est l'homme qui doit s'adapter à la machine, eh bien ça engendre une nouvelle forme d'esclavage où l'homme devient l'outil de la machine et là c'est contraire à une certaine dignité humaine.
Oui, alors en parlant d'esclavage, préservation de la liberté. Il parle de préserver la liberté face à la dépendance et à la marchandisation. Et il parle de dépendance au pluriel et de contrôle social, parce que là aussi, c'est une des inquiétudes du développement de l'intelligence artificielle. Est-ce que ça ne va pas devenir un outil de contrôle social, mais alors d'une puissance telle qu'on risque là aussi d'être asservi ?
Oui, alors il y a un long paragraphe où le pape insiste beaucoup sur ce danger du contrôle social, où on a accès à beaucoup de données, sur des données de vie privée sur les personnes, et pour exercer des contraintes sur les personnes. Et donc ça, c'est contraire à la dignité de l'homme. Donc le pape invite à poser des règles claires, à avoir une certaine transparence. Il faut que tout le monde sache comment ça fonctionne et comment ces données sont utilisées.
Oui, il parle bien de briser les chaînes des nouvelles formes d'esclavage et d'une responsabilité partagée. Alors, elle est partagée par qui ? Qui doit la partager, cette responsabilité ?
Une des grandes idées, hein, c'est que finalement, l'intelligence artificielle aujourd'hui est concentrée entre les mains de grands acteurs, qui sont des acteurs privés, qui échappent souvent à la régulation des États. Et donc, il faut qu'il y ait une véritable discussion où on puisse s'asseoir autour d'une table et voir ce qui est bien pour l'humanité.
C'est une discussion qui doit avoir lieu au niveau mondial, international. Qui peut la mener ? Parce que c'est ça la question.
Alors c'est une des possibilités. Hein. À la fin de l'encyclique, le pape présente par exemple le rôle de l'ONU, qui au long du XXe siècle, la deuxième moitié du XXe siècle, a joué un grand rôle dans la sécurité internationale. C'est ce genre d'initiative qui peut aller dans le sens d'une plus grande liberté, mais il y a aussi la législation des États. Il donne l'exemple de l'accès aux réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut l'interdire jusqu'à un certain âge ? Parce que pour les parents, c'est très difficile de résister à la pression de la société. Donc ça, c'est une forme de négation de la liberté.
Le dernier chapitre a pour titre « La culture du pouvoir et la civilisation de l'amour ». Et là, il aborde d'emblée tout ce qui concerne l'armement et la guerre. Ouais. Il parle de la banalisation de la guerre, de la force sans limite, des armes et de l'intelligence artificielle. Ça semble-t-il une très grosse inquiétude, aussi bien pour lui que pour la plupart d'entre nous, il faut bien le dire.
Oui. Comme je disais tout à l'heure, les papes en ont souvent parlé. Là, dans cette encyclique, le pape Léon explique que les armes qui utilisent l'intelligence artificielle abaissent le seuil moral de la guerre. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que, finalement, on va déléguer à une machine le soin de décider de tuer ou non. Et donc, l'homme se sent beaucoup moins responsable. C'est la machine qui a décidé. Et on fait, finalement, de la guerre une sorte de, d'optimisation de la violence et ça provoque une augmentation de la violence, une augmentation de la guerre. Avec la question aussi, hein, il insiste là-dessus, sur la protection des civils, ça doit être un des critères de ces armes, protéger les civils en toute chose.
Oui, et il parle aussi de la nécessité de la diplomatie et du multilatéralisme. Qu'est-ce qu'il entend par là ?
Alors ça, c'est une des grandes insistances, hein, de, disons, de la doctrine sociale, hein, face à la guerre, avec la théorie de la guerre juste, et que finalement, la guerre doit toujours être le dernier recours. Donc il faut constamment pouvoir dialoguer, et si on peut éviter la guerre, eh bien évitons la guerre. Et voilà, il faut travailler en faveur de la paix. Hein. Il insiste beaucoup là-dessus, sur le fait qu'on ne peut pas voir...
Oui, construire la paix dans la justice, hein, ce sont ses mots.
Oui, ouais. Voilà, on ne peut pas voir la paix comme un épisode...
Entre deux guerres.
Mais il faut voir la paix comme un chantier à construire.
Et il parle de construire la civilisation de l'amour. Ça rejoint, je suppose, cette optique.
Oui, oui. Donc, civilisation de l'amour, hein, c'est une expression de Paul VI dans les années 70, en 1970, hein, dans un contexte de guerre froide. Il faut construire non pas une atmosphère de conflit, mais une civilisation de l'amour qui repose sur la justice et sur la paix.
Et donc il conclut donc avec cet extrait, enfin le prologue de l'Évangile selon saint Jean, le Verbe s'est fait chair, et puis le chant d'espérance, le Magnificat. Pourquoi vous pensez qu'il a voulu terminer sur le Magnificat ?
Parce que c'est un texte qui exalte les plus pauvres, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Et donc il y a l'idée, hein, qu'on parlait tout à l'heure des limites de l'humain, et que la croissance de l'humanité ne se fait pas malgré ses limites, mais au travers de ses limites. Et donc, en plaçant les plus pauvres au centre, eh bien, on favorise la dignité de la personne humaine. Et à l'ère de l'intelligence artificielle, le risque, c'est de voir ces plus pauvres comme, disons, des défauts à effacer par l'optimisation.
Oui, il parle aussi, un des thèmes qu'il aborde dans sa conclusion, c'est un seul corps dans le Christ.
Oui, voilà, ça rejoint, hein, on parlait tout à l'heure de la reconstruction de Jérusalem, hein, travailler ensemble pour former un seul corps, eh bien, ça s'accomplit de manière éminente dans l'Eucharistie, on bâtit le corps du Christ.
Et donc il dit que toutes ces réflexions sur l'intelligence artificielle, c'est le chantier de notre époque. Bon, ça j'allais dire, on savait déjà que c'était le chantier de notre époque. Qu'est-ce que cette encyclique, on va conclure là-dessus, apporte à ce chantier, à cette réflexion que nous devons tous avoir sur l'intelligence artificielle, sur son développement et sur les conséquences qu'elle va avoir sur notre monde et sur nos vies au quotidien.
Je crois qu'elle nous apporte des principes clairs pour bâtir ce chantier, pour œuvrer à ce chantier, non pas en remplaçant ceux qui travaillent sur l'intelligence artificielle, mais en leur donnant des critères pour voir comment œuvrer en faveur de la justice. Donc la doctrine sociale, hein, ne se substitue jamais à la réflexion des acteurs politiques ou sociaux ou technologiques, mais elle leur donne vraiment des clés pour voir comment promouvoir la dignité humaine à la lumière de l'Évangile.
Eh bien, nous allons conclure cette émission sur ces mots. Merci beaucoup d'avoir été notre guide, frère Guénin-Marie Grange, dans la découverte et la compréhension de Magnifica Humanitas, la première encyclique du pape Léon XIV, consacrée donc à la protection de la personne humaine à l'ère de l'intelligence artificielle. Elle est disponible en librairie et j'invite toute personne qui s'interroge sur les enjeux de l'IA à la lire, qu'on adhère ou pas à tout ce que peut en dire le pape. Ce numéro était animé par Éric Dupri, à la technique Yannick Galupini. Merci de votre fidélité à l'écoute de Vivante Église. À la semaine prochaine.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00, 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.